Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Stéphane Carpentier. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir dans RTL Soir. Deux heures d'infos en direct pour tout savoir et tout comprendre. Comprendre ce soir pourquoi le gouvernement fait finalement le choix de ne pas construire un quatrième terminal à l'aéroport international de Roissy. C'était un projet à 7-9 milliards d'euros pour à terme augmenter la capacité d'accueil de 40 millions de passagers par an. Finalement, ça n'est plus adapté aux enjeux actuels. Jean-Baptiste Djebari viendra nous expliquer le pourquoi du revirement et nous dire s'il s'agit d'un choix écologique plutôt qu'économique. Mais alors quid des compagnies aériennes déjà dans le rouge et dont les avions volent au minimum? Le ministre délégué au transport face à nos questions tout à l'heure à 18h15. Soyez tous les bienvenus. RTL Soir démarre avec le journal et les grands titres. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Et à la une ce soir, le dépistage du Covid à l'école, ce sera bientôt possible. Une première expérimentation a commencé aujourd'hui dans le 13e arrondissement de Paris. Nous irons sur place dans un instant. Dans ce journal également, le crédit d'impôt, bientôt mensualisé. Enfin, diront certains, ce devrait être pour l'an prochain. Et puis nouveau gros coup dur pour le PSG, Neymar sera forfait pour le match face au Barça la semaine prochaine. Blessé hier, il devrait être indisponible pendant au moins 4 semaines.
Avant tout cela, la météo, parce que ça nous intéresse particulièrement en ce moment. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Nous avons 38 départements en vigilance orange.
Exactement, 22 pour neige verglas entre la Bretagne et les Alpes, 13 pour grand froid sur le nord-est et toujours 3 pour cru. Demain, la perturbation va concerner l'ouest et toute la moitié sud dès le matin. Avec une bande de pluie verglaçante, il faudra être très prudent entre la Bretagne et le nord de l'Auvergne. De bonnes pluies également toute la journée sur le sud-ouest, une zone de neige jusqu'en plaine entre les Alpes et la vallée du Rhône qui va s'accentuer au fil des heures et du soleil quand même sur le nord-est le matin et le soleil va gagner le nord-ouest l'après-midi. Il fera toujours très froid, de moins 11 à moins 1 au nord le matin et de 2 à 8 au sud pour les maximales, de moins 2 à 5 au nord, 8 à 15 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et donc ça y est, nos enfants vont pouvoir être testés à l'école. La Haute Autorité de Santé a donné aujourd'hui son feu vert aux tests salivaires pour dépister le Covid. Une expérimentation est en cours dans 4 établissements, dont l'école Louise Michel à Paris, dans le 13e arrondissement, où s'est rendu tout à l'heure Jean Castex.
C'est un public qui est plus fragile et qui est parfois plus réticent aux tests nasopharyngés et aux désagréments qu'il peut provoquer. Notre objectif au retour des vacances scolaires, et dès que nous aurons tirer tous les enseignements de cette expérimentation, c'est de pouvoir réaliser de l'ordre de 200 000, sans doute davantage, tests par semaine. Donc la volonté des pouvoirs publics est d'accroître, d'améliorer encore la surveillance.
Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir.
Comment ça fonctionne ces tests salivaires?
Alors ce sont des tests avec la technologie PCR qu'on connaît bien, donc on a les résultats en une journée. La différence, c'est qu'au lieu d'enfoncer un écouvillon dans le nez, eh bien on va récolter de la salive et l'analyser. Ce type de test sera utilisé quand on aura besoin de faire un dépistage de masse, hein, dans les écoles par exemple, ou quand on est face à des personnes chez qui le prélèvement nasopharyngé n'est pas possible. Autre particularité, on pourra le faire à domicile. Il faudra auparavant passer chercher un kit de prélèvement dans un laboratoire. La salive sera recueillie dans un petit tube qui sera ensuite rapportée à l'officine pour analyse. La sensibilité de ces tests salivaires est estimée à 85% par la Haute Autorité de Santé. C'est un peu moins que les prélèvements dans le nez qui restent de toute façon la référence.
Merci Sophie pour ces explications. Alors voyons ce qu'en disent les premiers intéressés, les enfants de l'école Louise Bourgeois à Paris. Dans le 13e arrondissement et non Louise Michel, comme je vous le disais. Ils ont donc testé ces nouveaux tests, écoutez.
Au début, le maître, il a dit d'attendre avec un livre. Après, on s'est assis devant une salle où il nous demandait si on était parti en vacances et tout. Après, on allait dans une autre salle où là, ils nous ont demandé de cracher dans une sorte de gobelet.
Et c'était dur un peu.
Ouais, ça va.
Parce que tu dois économiser et tu dois cracher ta salive.
C'est un peu dégoûtant.
C'est vraiment dégoûtant.
Et en gros, à un moment, en fait, il faut cracher encore. Et moi, j'arrivais plus
à...
Moi je prends plutôt avec la salive, même si c'est un peu dégoûtant.
J'ai du mal à croire que ce soit fiable à 100%, mais aussi bien pour le nez. Donc si c'est plus facile à faire pour l'enfant et ludique.
On n'avait pas envie
qu'elle fasse le nasopharyngé, parce que le nasopharyngé, c'est pas douloureux, mais c'est quand même désagréable. Et les enfants, je me dis, ils peuvent bouger, enfin, ça peut être dangereux. Là, elles ont craché dans un petit tube, ça les fait plus rigoler qu'autre chose.
Ça les a en effet visiblement beaucoup amusés, des propos recueillis pour RTL par Jacques Serret.
Sur le front économique, cette crise sanitaire a sans doute, Amandine, porté le coup de grâce au projet d'extension de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
Le gouvernement a en effet décidé d'abandonner la construction du 4e terminal, un projet colossal estimé à 8 milliards d'euros et qui devait permettre d'accueillir 40 millions de passagers par an. En plus, Gauthier Delombugard, ce sont aussi des milliers d'emplois qui ne seront pas créés et ça inquiète sur place.
Effectivement, selon une étude diligentée par le groupe ADP, le terminal T4 de l'aéroport devait permettre de créer près de 50 000 emplois directs d'ici 15 ans et cela dans des secteurs très variés. Michel Jonker préside le MEDEF du Val d'Oise.
Il y a énormément de possibilités d'emploi dans l'aéroportuaire, sans diplôme jusqu'à diplôme très haut placé. Des emplois non seulement techniques, mais aussi des emplois, tout ce qui est la sécurité, dans l'entreposage, dans les services de valise, et évidemment l'hôtellerie, la restauration. Et donc voilà, l'élimination du 4e terminal est une catastrophe pour le Val-d'Oise, dans un territoire où il y a 25% de chômage des jeunes.
Selon le gouvernement, ce projet d'extension n'est plus en accord avec les enjeux environnementaux. Il n'est plus forcément utile avec un trafic aérien extrêmement réduit depuis le début de la pandémie. Des arguments balayés par Pierre Cuchely, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val-d'Oise.
Je comprends bien qu'avec la Covid, tout est au ralenti, mais on peut quand même s'imaginer qu'un jour ou l'autre, le trafic aérien va reprendre, le monde d'avant va reprendre, que le business va reprendre. L'aéroport de Roissy, aujourd'hui, a besoin d'investissement. Et là, on fout tout en l'air, comme ça. Voilà. Donc, je suis en colère.
Les entrepreneurs locaux déplorent un nouveau coup dur après l'abandon du projet Europa City il y a un an et demi, un méga complexe de loisirs et de commerce qui devait permettre de créer 60 000 emplois.
Gauthier Delombugard, et on y revient dans une dizaine de minutes avec Jean-Baptiste Djebari, le ministre des Transports, qui sera votre invité, Stéphane.
Si vous employez une femme de ménage ou une nounou à domicile, voici une bonne nouvelle.
Oui, votre crédit d'impôt va rester le même. Pas question de décompter les heures passées au parc, aller chercher les enfants à l'école ou à faire des courses. Le gouvernement a finalement décidé de ne pas suivre les recommandations du Conseil d'État. Un soulagement, dit ce soir la Fédération des particuliers employeurs.
Nous sommes évidemment rassurés puisque nous étions devant, je dirais, un chemin extrêmement de complexité, une incompréhension globale. Et puis surtout, pas du tout adapté à la situation de l'emploi à domicile et au contrat de travail en particulier d'une personne âgée qui, en ce moment, a énormément besoin qu'on aille chercher ses médicaments à la pharmacie, qu'on puisse l'emmener éventuellement faire ses courses. Bref, l'annonce du ministre réassure tout le monde. Il n'y aura pas de désengagement du côté du crédit d'impôt pour un emploi à domicile. Et c'est ça la bonne nouvelle.
Marie-Béatrice Levaux, la présidente de la Fédération des particuliers employeurs au micro RTL de Christophe Ponzio. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
L'autre info à retenir ce soir, c'est que ce crédit d'impôt sera bientôt enfin mensualisé.
Oui, fini l'année de décalage. À partir de janvier prochain, ces 50% de crédit d'impôt seront instantanés dès votre déclaration mensuelle. Mais attention, pas pour tout le monde. Cela va d'ailleurs concerner les utilisateurs du chèque emploi-service, le CESU. Donc tout ce qui est ménage, repassage, jardinage ou bricolage. Ce n'est qu'ensuite que la ristourne mensuelle devrait être étendue à la garde d'enfants, aux déclarations sur page emploi. Là, ce sera d'ici à l'été 2022. Même retard de 6 mois pour les particuliers employeurs qui passent par des intermédiaires type société de service à la personne. Sur le mode d'emploi, tout se fera sur Internet via les plateformes CESU Plus et Page Emploi Plus mises en place depuis le prélèvement à la source. Sans cela, vous resterez à l'ancien système d'avance. Désormais, pour une heure déclarée, la moitié sera instantanément remboursée et payée par l'État. Ainsi, le nombre d'emplois dans le secteur pourrait quasiment doubler grâce à la baisse du travail au noir. Reste que Bercy se veut prudent parce que cela fait 3 ans que le fisc travaille sur le sujet. Une expérimentation sur 150 personnes seulement est en cours. Sa généralisation concernait plus de 3 millions de personnes et près de 800 millions d'euros versés chaque mois. L'opération interviendra donc uniquement si les résultats des tests sont concluants.
Christophe Ponzio du service Éco de RTL.
18h08 en ce jeudi soir, vous restez bien là. Amandine Bégaud revient dans un instant pour la suite du journal avec ce nouveau mot qui pourrait faire son apparition dans nos dictionnaires. Ce mot, c'est parange. A tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Amandine Bégaud pour la suite du journal dans RTL Soir. Le mot parange pourrait donc faire son entrée dans le dictionnaire.
Parange, comme la contraction de parent et ange, c'est comme ça que certaines associations appellent les parents qui ont perdu un enfant. Aujourd'hui, avec l'appui de plusieurs députés, elles aimeraient que ce terme soit inscrit dans la loi, comme on parle de veuf ou d'orphelin. Philippe Ladouigne a perdu son fils Enguerrand à l'âge de 13 ans d'une tumeur du cerveau.
Il y a un vide sémantique.
Et c'est vrai que c'est important de pouvoir donner un nom sur ce que l'on vit. C'est vrai que le décès d'un enfant, c'est tabou. Si déjà on peut être reconnu avec un mot qui nous désigne en tant que moi, personnellement, je me sens papange, ma femme est une maman. Si on peut être reconnu parent, pour nous, ça serait une belle avancée. Et ça serait déjà un petit peu douleur en moins, même si on sait qu'on va vivre avec le deuil de notre enfant toute notre vie.
Philippe Ladon, le président de l'association Warrior Enguerrand, au micro RTL de Marie-Bénédicte Thaler. Sur le front des intempéries, 35 départements sont toujours ce soir en alerte orange pour grand froid, risque de neige et de verglas. Il y a deux zones, l'une à l'est qui va de la Meuse à la Drôme, l'autre à l'ouest du Finistère à l'Indre, en passant par la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique où l'on trouve Mathieu Lopineau. Mathieu, il est tombé tout à l'heure à la mi-journée 2 petits centimètres de neige à Nantes, mais ça a suffi pour semer une sacrée pagaille.
Et à la mi-journée, la neige a provoqué de gros bouchons sur le périphérique nantais et en centre-ville. Jean-Marie a été surpris. Ce Nantais n'a pas du tout l'habitude de rouler sur la neige.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de neige si tôt. Je ne suis pas préparé spécialement, donc il faudra faire très attention sur la route.
Et il faut dire qu'il n'y avait pas neigé ici à Nantes depuis 8 ans, avec 4 petits centimètres à l'époque. Alors ce midi, il n'en fallait pas plus pour mettre les bus et une bonne partie des trams à l'arrêt, au grand désespoir de ses usagers.
Ouais, bah on doit aller en cours en plus, hein. C'est un peu la merde.
Là, c'est vraiment galère. Mais bon, il fallait travailler, pas le choix.
Les camions de plus de 7,5 tonnes ont interdiction de rouler sur tout le département. Kevin a été obligé de garer son poids lourd près d'une station de service le long du périph nantais.
Ouais, j'étais arrêté en plein milieu d'autoroute, et puis après, ils ont stocké sous les herbes. Moi, ça va, c'est un chauffage, mais maintenant, ils ont rien du tout.
Les cars et les transports scolaires circulent donc à nouveau sur l'ensemble du département depuis quelques minutes.
Mathieu Lopineau à Nantes pour RTL.
Le football, Amandine, est un nouveau gros coup dur pour le PSG.
Neymar, qui s'est blessé hier lors du match face à Caen, sera absent pour 4 semaines. C'est ce qu'annonce le club. Bonsoir Nicolas Georgerot.
Bonsoir.
À 5 jours du 8e de finale aller de Ligue des Champions, ça tombe vraiment très très mal.
Oui, si vous avez un talisman, un gris-gris ou un porte-bonheur, je vous conseille de l'adresser au PSG. Ils sont preneurs, voyez-vous. Alors Neymar, adieu le match aller mardi en Catalogne. Et sérieux doute aussi sur le match retour au Parc des Princes le 10 mars, parce que même s'il est en état de jouer, il ne sera évidemment pas à 100%. Les examens en début d'après-midi à l'hôpital américain de Neuilly ont confirmé la tendance lourde d'hier soir. Blessure à l'adducteur de la cuisse gauche, le Brésilien avait ressenti face au Turc de Başakşehir en octobre dernier une douleur dans une zone très proche. Les huitièmes de finale passent et Neymar est en tribune. En 2018 et 2019, il avait raté 3 des 4 échéances à ce stade en raison de sa blessure au pied et à la cheville. Le PSG jouera à Barcelone sans ses deux meilleurs joueurs offensifs du moment, Neymar donc et Di Maria, lui aussi forfait.
Bon Nicolas, je suis pas une spécialiste, mais à quelques jours d'un match aussi important, est-ce que c'était vraiment nécessaire de le faire jouer hier soir pour un match de Coupe de France?
Alors c'est une question qui revient souvent à l'approche des grands rendez-vous. Faut-il mettre de côté pendant une ou deux rencontres les Mbappé et les Neymar? En tout cas, Pochettino assume entièrement, ne regrette rien. Les joueurs ont besoin de rythme aussi avant ces matchs-là. Et à l'étranger, les Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, etc., à de très rares exceptions, eh bien, ne sont pas préservés. Ils jouent toutes les rencontres qu'ils peuvent disputer.
Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. On finit avec la bonne nouvelle?
S'il vous plaît.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et une première médaille française au championnat du monde de ski alpin. Médaille de bronze pour Alexis Pinturault qui finit 3e du Super G. C'était inattendu.
Ça fait quelques temps que je tourne autour d'un podium en Super G dans cette discipline. Et puis là, je suis très heureux de l'avoir fait finalement le jour J, le jour qui compte. Là, c'était certainement la meilleure des manières pour pouvoir commencer cette quinzaine. Je pense que c'est une première médaille, donc ça fait du bien. Ça permet aussi de voir les choses un peu plus sereinement. Après, il ne faut pas oublier que chaque jour sera complètement nouveau et qu'il faudra remettre les pendules à zéro et puis tous les jours donner le maximum pour pouvoir jouer aux avant-postes. Ouais.
Alexis Pinturault qui vise 3 autres médailles dans ces championnats du monde, dont celle du géant. Ce sera à suivre la semaine prochaine.
Merci Amandine, à tout à l'heure 18h30 pour un rappel complet de l'actualité. Vous avez à disposition pour suivre l'actualité l'appli RTL. Vous restez bien là, 18h15, le secteur aérien va mal dans notre pays. On va en parler dans un instant avec le ministre délégué au transport, c'est Jean-Baptiste Djebbari, l'invité de RTL Soir. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
C'est en direct, il est 18h17, c'est RTL Soir et c'est donc le ministre délégué au transport qui est notre invité, Jean-Baptiste Djebbari. Bonsoir à vous.
Bonsoir à tous.
Est-ce que d'abord vous confirmez aux auditeurs que la construction du futur terminal 4 de l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, est abandonnée?
Oui, je confirme que le gouvernement a demandé à ADP d'arrêter ce projet en l'état et de nous proposer un autre projet qui prenne en compte des très grandes mutations du transport aérien qu'on connaît tous. On est en train d'investir massivement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler sur l'avion du futur, de décarboner très largement ce secteur. Et puis la crise, elle est là, elle est profonde, elle est certainement durable. Et donc, il est évident que le projet qui prévoyait une croissance très solide, très stable pendant chaque année, pendant de nombreuses années, ne sera pas au rendez-vous et qu'il faut donc revoir en profondeur le projet, comme je vous l'avais d'ailleurs déjà dit à votre antenne il y a maintenant de plusieurs
absolument. Mois. Ce projet-là, c'est un arrêt définitif, on est d'accord, c'est pas un report.
Non, ce projet-là, en l'état, il est arrêté et ADP doit repenser intégralement et en profondeur un nouveau projet qui ne sera pas celui-là, ni même une amodiation un peu légère de celui-là.
C'est un projet qui devait permettre d'accueillir 40 millions de passagers supplémentaires par an et d'absorber environ 450 vols de plus chaque jour. Est-ce qu'avec cette décision, vous n'allez pas finir d'achever les compagnies aériennes qui sont déjà au plus mal?
Non, d'abord, nous soutenons les compagnies des exploitants. C'est un plan de soutien de 15 milliards d'euros. Tout le monde a en tête le soutien à Air France KLM et la filière, notamment Airbus, Safran, chez qui j'étais cet après-midi, et l'ensemble de la filière aéronautique est soutenue. Et par ailleurs, le trafic aérien aujourd'hui, c'est à peu près un tiers de ce qu'il était l'année, enfin en tout cas il y a un an et demi, en 2019, un tiers, 33% des vols, avec des incertitudes assez grandes pour la suite, la part du télétravail, le retour au nom du voyage d'affaires. Il y a certainement des compagnies aériennes qui, après la crise, vont être conduites à fermer, donc très probablement une consolidation du secteur. Donc il faut vraiment être aveugle pour penser que rien ne se passe et que rien ne se passera. En revanche, il faut repenser des projets aéroportuaires, davantage tournés vers les nouvelles énergies, l'hydrogène par exemple pour les avions qui ont vocation à continuer à se décarboner, mieux interconnectés que le ferroviaire, grande vitesse et train du quotidien, autour de Roissy, faciliter les accès notamment aussi par la route, qui est aujourd'hui un des grands défauts de la. Bref, repenser pour l'usager et dans un sens plus compatible avec nos engagements environnementaux, l'avenir de la plateforme de la plateforme.
J'aimerais qu'on s'arrête ensemble sur le sort justement des compagnies aériennes. C'est une défaite de plus pour ces compagnies, c'est ce que disait à la mi-journée sur RTL Alexandre de Junia, qui est le patron de l'Association internationale du transport aérien, et il s'est adressé directement au gouvernement. On l'écoute ensemble, vous réagissez ensuite. Bien.
Nous demandons maintenant au gouvernement, d'une part, d'étendre leur aide, au moins pour passer les 6 prochains mois, qui vont être très très difficiles, parce qu'on ne voit pas de reprise significative du trafic avant juin, c'est-à-dire avant que le vaccin ne soit effectivement massivement déployé. Et d'autre part, on demande au gouvernement de préparer le retour à la normale en tirant les conséquences stratégiques de leur politique de vaccination pour réouvrir les frontières, relâcher les contraintes qui pèsent sur le transport aérien et sur le voyage en général.
Et alors les aides, vous allez les prolonger?
Il y a trois sujets. D'abord, il y a eu un plan de 15 milliards d'euros, je rappelle 15 milliards d'euros, dont une aide très massive à Air France KLM. Les aides continuent. Aujourd'hui, elles continuent dans le cadre du plan tourisme, par exemple, certain nombre d'aides s'agissant du chômage partiel, de l'activité partielle longue durée qui continue également. Il y a des compagnies aériennes et des exploitants aéroportuaires qui sont en très grande transformation interne. Je pense notamment au groupe Air France KLM, mais l'État, nous l'avons dit, sera présent aux côtés des exploitants, aux côtés des compagnies aériennes.
Air France KLM, le plan de sauvetage, c'est pour quand? Et à quelle hauteur?
Il y a deux sujets. Air France KLM, il y a les 7 milliards de prêts l'année dernière. Il y a la transformation du groupe qui est très importante et pour laquelle les syndicats et les personnels s'engagent beaucoup. Et puis, il y a la recapitalisation qui est en cours de discussion notamment avec Bruxelles et qui fait l'objet de discussions avec les Néerlandais d'un côté et la Commission de l'autre. Et puis, moi, j'ajoute que, pour parler de la suite, tel qu'Alexandre de Juniac le disait, il faut aussi repenser ce qui n'a pas été fait dans les 15 dernières années, et notamment le dumping social qui s'est exercé dans l'aérien, qui a fait prospérer des compagnies low cost, qui seront celles qui vont être en capacité, après la crise, d'être à nouveau très fortes et donc de continuer en quelque sorte à déréguler le marché. Moi je pense que ça c'est un sujet européen et très politique, et qu'il faut adresser de façon concomitante avec le soutien économique, sinon on aura à la fin moins d'avions, plus de compagnies low cost, pas vraiment de régulation sociale, et ce sera évidemment très dommageable pour le secteur.
Jean-Baptiste Djebbari et Alexandre de Junia qui vous demandent de refaire revoler les avions. On peut le faire.
C'est un sujet sanitaire. D'abord, les avions volent encore un peu, même s'ils sont très.
Pas beaucoup. Hein.
Beaucoup de restrictions. Non, c'est très faible, effectivement, je le disais, à peu près un tiers du trafic par rapport à l'an passé. Le sujet qu'il aborde, il est important, c'est notamment les formalités. Alors, il y a le sujet du passeport vaccinal, mais dans un premier temps, il y a le sujet de la digitalisation des différents formulaires qu'on pourrait déjà faire. Moi, je pense que c'est un bon sujet pour l'Union européenne. C'est probablement un bon sujet pour l'OMS. Et donc, tout ça fait l'objet de discussions politiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment de la reprise, il faudra qu'on puisse disposer de bases documentaires digitalisées, autrement dit vous présentez un QR code et non pas quatre papiers les uns à la file des autres en engorgeant les queues. Et puis il y aura tout le débat politique autour des mesures pour embarquer à bord des avions. Est-ce que vous devez avoir un test? Est-ce que vous devez être vacciné? L'un ou l'autre, l'un et l'autre. Bref, ce sera des discussions politiques au sein des autorités sanitaires et évidemment à l'échelle de l'Union sur le plan de la discussion politique.
Ça risque d'être compliqué, on est d'accord là-dessus. Hein.
Bah, il faut avancer, parce qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour rendre la confiance et pour avoir un système sanitaire solide, il faut qu'on puisse, notamment s'agissant des transports internationaux et de l'aérien en particulier, avoir un dispositif robuste.
Le passeport vaccinal, vous êtes pour, vous ?
Bah écoutez, pour prendre l'avion aujourd'hui, il faut que vous ayez un test négatif partout dans le monde. Donc il y a déjà en quelque sorte des restrictions sanitaires à l'embarquement. Donc il y aura un sujet dès lors que la campagne de vaccination mondiale sera bien avancée, parce qu'il faut évidemment que tout ça se fasse à une échelle pertinente. C'est un bon sujet pour l'OMS, c'est un bon sujet pour l'Union européenne. C'est assez différent du sujet du passeport vaccinal pour les activités de la vie quotidienne, l'accès au théâtre ou au restaurant. Mais je pense que ce sera un sujet politique des prochaines semaines, des prochains mois, c'est sûr.
L'annulation de ce projet du T4 à Roissy, c'est quoi ? C'est une mesure, une décision écologique plus qu'économique?
Non mais écoutez, moi j'ai écouté les oppositions, notamment écologiques. Bon, en général, elles n'ont pas fait grand-chose quand elles étaient au pouvoir. Et je pense notamment à M. Bayou, qui a quand même appartenu à un parti qui était en coalition sous M. Hollande. Et elles s'approprient l'action écologique du gouvernement quand le gouvernement agit. Il agit beaucoup. Moi, j'ai pas vu les écolos au pouvoir fermer Notre-Dame-des-Landes, arrêter un projet aéroportuaire, fermer les centrales à charbon, bref, tout ce que vous connaissez maintenant par cœur. Donc je constate que la démagogie politique est sans limite et qu'elle se poursuit au XXIe siècle.
La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, elle souhaite une utilisation plus raisonnée de l'aérien. Ça veut dire quoi, ça ?
C'est-à-dire, je pense, plus tourner vers d'abord des enjeux de décarbonation industrielle. On doit avoir des avions qui polluent moins et la filière est extraordinairement engagée. J'étais chez Safran cet après-midi à Gennevilliers et c'est une filière qui d'abord a énormément de compétences, qui est un des leaders mondiaux s'agissant des moteurs pour Safran par exemple, et évidemment tout le monde connaît Airbus et qui est en capacité d'investir beaucoup et d'avoir des résultats et de maintenir de l'emploi qualifié, des emplois concrets. On était dans une forge, dans une fonderie. Ouais, c'est l'industrie concrète et le rayonnement de la France. Et deuxièmement, c'est ce qu'on a proposé dans le projet de loi Convention citoyenne, c'est-à-dire avoir, quand vous avez des opportunités ou des alternatives ferroviaires robustes sur des vols de moins de 2h30, privilégier le train n'est effectivement pas une aberration, c'est déjà largement ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Paris-Bordeaux se fait très majoritairement en train, c'est vrai aussi de Paris-Strasbourg, et à chaque fois que vous avez une alternative ville à ville, à grande vitesse, dans des bonnes conditions de confort et de régularité, en général, vous préférez le train.
Le train, justement, ce sont les vacances qui se prolongent. On a déjà une zone qui est en cours, une qui va débuter demain soir. Est-ce que les Français vont prendre le train, vont se déplacer ?
Ben, les Français prennent un peu moins le train que pendant les vacances de Noël. Ouais. On avait eu un Noël avec 70% de la fréquentation habituelle. Là, on a encore 30% de moins. Donc ça explique aussi, les vacances de février sont souvent un peu comme ça. Donc, trafic assez calme, environ 3 trains sur 4 qui circulent par rapport à l'habitude, et des trains remplis à 60%, mais les protocoles sont respectés, nous sommes évidemment toujours vigilants, et puis je crois que les Français ont très largement maintenant, depuis de nombreux mois, pris l'habitude de porter le masque, de faire attention aux autres, de respecter les gestes barrières, et que c'est aussi peut-être pour ça qu'on arrive collectivement à repousser un peu ces contaminations et ces explosions qu'on nous promet chaque semaine.
Voilà, les Français respectent les gestes barrières dans les trains, c'est ce que vous nous dites. Vous le prenez le train, vous, régulièrement ou pas ?
Je suis venu en métro, vous voyez.
Parce que dans les trains, en ce moment, on est masqué très bien, mais on mange quand même, on boit. Est-ce qu'on peut tolérer ça ? On peut comprendre ça ? Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On peut aller dans les trains comme ça, à plusieurs, être nombreux, manger, consommer, enlever les masques, dialoguer, et on peut pas le faire dans les lieux culturels, par exemple.
On ne mange pas et on ne boit pas pendant 4 heures de trajet.
Ouais, mais si on le fait 10 minutes, ça suffit, non ?
Oui, mais quand vous avez faim, vous mangez, quand vous avez soif, vous buvez. Enfin, on peut pas. Sinon, effectivement, tout le monde reste chez soi, enfermé à côté de sa famille, et plus rien ne se passe. Donc, c'est toujours une conciliation, tout ça. Nous avons étudié les différents protocoles sanitaires, nous avons posé un protocole qui est stable. On continue évidemment à regarder ce qui se passe à l'étranger, et pour l'instant, nos protocoles sanitaires, tant pour les trains longue distance que pour les trains, les transports en commun, ont l'air de porter leurs fruits au sens où ils protègent les Français, les usagers, et ils permettent de continuer à se déplacer pour aller au travail et pour profiter de peu de vie sociale que nous avons actuellement.
Jean-Baptiste Djebari, je reviens aux avions et aux aéroports. Il y a de faux résultats de tests PCR qui se revendent un peu pour voyager en ce moment. On le voit un peu partout. Est-ce que vous allez durcir les contrôles, les sanctions ? Est-ce que vous le pouvez ?
Ouais, on a déjà beaucoup. D'abord, on contrôle beaucoup. Les chiffres qu'on a, c'est à peu près 2% de faux tests sur les contrôles que nous faisons notamment à Roissy. Donc c'est plutôt faible. Et parmi ceux qui ont des faux tests, quand on teste pour de vrai les personnes, on s'aperçoit qu'il y a très peu de cas positifs. Donc ça veut dire qu'on a finalement peu de personnes qui passent au travers des mailles sanitaires du filet. Mais oui, bien sûr, c'est un enjeu pour les douanes. Mmh. Et l'enjeu de digitalisation que j'évoquais tout à l'heure autour peut-être d'une initiative de l'OMS, ça vise aussi à avoir des formulaires standardisés avec une labellisation mondiale et donc éviter tous ces faux qui peuvent ici et là prospérer ou pulluler.
Il faut être plus dur en tous les cas.
En tout cas, il faut contrôler. Mmh. Il faut être. Moi, j'ai été amené à sanctionner des compagnies aériennes, notamment éthiopiennes, pendant 3 jours de suspension de vol parce qu'elles ne respectaient pas les formulaires à l'embarquement, notamment de tests PCR. Et nous continuerons à contrôler, à surveiller les compagnies et évidemment avec la police aux frontières à contrôler ceux qui font ou commettent ce type de délit tout à fait condamnable.
Et par curiosité, c'est quoi les sanctions ?
Des peines d'amende.
Des peines.
Et aussi des refus d'admission du territoire. On a eu tout à fait ces cas-là.
Merci à vous de nous avoir accompagnés dans RTL Soir, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport, entretien évidemment que vous pouvez retrouver sur l'appli RTL. À suivre dans RTL Soir, nous sommes jeudi, l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir Philippe.
Bonsoir, bonsoir.
Vous allez nous parler du débat de ce soir avec Marine Le Pen et Gérald Darmanin.
Oui. Je peux vous appeler Thomas, parce que sinon ça me fait changer
tous
mes
fiches,
il faut que je m'adapte et tout. Et non, quoi. Ah oui, un débat avec Gérald Darmanin, et j'ai pensé aux deux femmes qui accusent Gégé Lamalice d'avoir profité de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles. Ah, quand elles ont vu le body d'Olivier Véran, notre ministre de la Santé et du Fitness, elles ont dû se dire... Oh mince, on n'a pas misé sur le bon cheval. On s'est tapé le copain moche.
C'est prometteur, c'est Philippe Cavrivière.
Il y aura pire après, attention.
Oh, j'imagine bien, à tout de suite.
RTL Soir.
18h31, RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Amandine Bégaud à mes côtés pour l'essentiel de l'actualité.
Et à la une ce soir, le feu vert, la Haute Autorité de Santé pour les tests salivaires, tests pour dépister le Covid. Une expérimentation a débuté aujourd'hui dans 4 établissements scolaires, dont une école à Paris où s'est rendu Jean Castex. Le Premier ministre fixe un objectif, 200 000 tests par semaine dès le retour des vacances de février. Sur RTL, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, lui appelle ADP à repenser un nouveau projet après l'abandon de l'extension de l'aéroport de Roissy. Projet plus adapté aux enjeux actuels, plus écologique. Et puis du foot, ce nouveau coup dur pour le PSG. Neymar sera forfait pour le match de Ligue des Champions la semaine prochaine face au Barça. Blessé hier, le joueur devrait être indisponible pendant au moins 4 semaines.
Merci Amandine. La météo, Peggy Broche, me tourne vers vous. Situation demain compliquée.
Oui, parce que 38 départements sont déjà en vigilance orange. 22 pour neige, verglas entre la Bretagne et les Alpes. 13 toujours pour grand froid sur le nord-est et toujours 3 pour crue. Alors la perturbation de matin sera sur l'ouest du pays et toute la moitié sud. Attention aux pluies verglaçantes entre la Bretagne et le nord de l'Auvergne. De la pluie toute la journée sur le sud-ouest, de la neige jusqu'en plaine en région Rhône-Alpes. Il pourrait y avoir jusqu'à 10 cm de neige à Lyon, par exemple, à la fin de la journée. Le nord-est sera épargné avec un temps sec et de belles éclaircies le matin. Et les éclaircies vont gagner le reste de la moitié nord l'après-midi. Tout ça sous des températures encore très froides. De moins 11 à moins 1 le matin au nord, de 2 à 8 au sud. Et les maximales, moins 2 à 5 au nord, 8 à 15 au sud.
Ça remonte quand aussi, soir ?
Dimanche après-midi et lundi, ça ira mieux. Je vous dirai après ma sieste.
Merci Peggy Broche. 18h32 en ce jeudi soir, on retrouve donc Philippe Cavrivière. Rebonsoir Philippe.
Rebonsoir, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et je tiens à vous dire que je suis ravi de faire cette émission avec vous, mon cher Stéphane Charbonnier.
Carpentier, Carpentier, je m'appelle Stéphane Carpentier.
Oui, oui, mais les gens s'en foutent. Au mieux, ils se disent, c'est pas le gars du week-end avec l'autre con avec les tatouages. Alors, Bertrand Charpentier, on ne vous présente plus. Vous animez RTL matin, le week-end, voilà, la tranche 4h30, 7h. Vous faites donc un carton d'audience sur les boulangers. Et là, il est 18h30 passé. Attention, notre animateur vedette, les filles, peut partir en narcolepsie à tout moment. Donc, vous remplacez Thomas Soto qui fête la Saint-Valentin en avance avec Marine Le Pen. Alors, consigne d'avant-match, Lionel Charbonnier, quand une bonne vanne arrive, vous rigolez. Quand une mauvaise vanne arrive, vous rigolez quand même. Quand une vanne arrive et que vous ne la comprenez pas, rigolez aussi. Personne ne vous en voudra. Je vous l'expliquerai hors antenne. On parlera.
Ouais, c'est noté. On démarre par le nouvel an chinois. Philippe, c'est demain, je crois.
Oui, et vous avez raison de le rappeler, car on est très écoutés à Pékin et à Wuhan. Je voudrais donc souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs chinois. Vous avez trop souffert de racisme et de stigmatisation avec ce Covid. Le Covid, c'est de la faute de l'humain, en général. Pas des Chinois. Mais bon, faites gaffe quand même à ce que vous allez bouffer pour votre réveillon. Hein. Restez sur des classiques, vous êtes gentils. De la dinde, du canard, et pas nous chercher des animaux bizarres. Si vous voulez vraiment faire les cons, manger des escargots comme nous, attention, on ne juge pas les coutumes alimentaires des Chinois. On mange bien des pasta box. On mange tous des trucs dégueulasses.
On parle de l'événement politique de la semaine qui a lieu ce soir. Gérald Darmanin va affronter Marine Le Pen dans l'émission Vous avez la parole, c'est sur France 2.
Oui, débat très attendu entre Gérald Le Pen et Marine Darmanin. Ce sera pas un affrontement, on sera plus sur une collab, un featuring. C'est vrai qu'ils sont d'accord sur pas mal de trucs. Hein, c'est un peu les Bogdanov de l'immigration. On ne sait pas qui est qui. Voilà. Ce sera plus un... Ça fait plaisir d'écouter Glenn Medeiros. C'est audacieux, cette émission proposée à Darmanin un tête-à-tête avec une femme. Fallait oser. C'est un peu comme si tu proposais à Gabriel Maznev d'animer l'école des fans. Pour ne pas tenter GG, MeToo insiste, hein, comme on le surnomme, France 2 aurait choisi de remplacer exceptionnellement Léa Salamé par Arlette Chabot. C'est vrai que Léa Salamé a un physique... C'est choquant ce que je dis. Elle a un physique plus immédiat que Arlette. Et un prénom aussi. C'est pas choquant de dire que Jacqueline Gourault est peut-être un peu en dessous de Gisèle Bündchen. Non, on peut plus le dire. D'accord, ok, le politiquement correct a gagné. En tout cas, on va regarder l'émission pour notre Thomas Soto. Bon, faut pas s'attendre à du spectaculaire non plus. Ce sera moins punchy que n'importe quelle heure des pros avec Jean Messia et Charlotte Dornelas pour les amoureux de Pascal Praud, dont je suis.
Autre sujet de la semaine, la libération de la parole des victimes d'agressions sexuelles. Cette fois, c'est au tour des étudiantes de Sciences Po de s'exprimer, Philippe.
Comme quoi, les longues études. J'ai bien fait d'arrêter l'école en troisième. Bon, il y a des enquêtes préliminaires. C'est fou de toutes ces enquêtes préliminaires pour des affaires où il n'y en a pas eu beaucoup de préliminaires, donc voilà, pour les cons qui n'avaient pas la vanne. Alors, bien sûr, c'est horrible ces affaires d'agression, mais il y a un certain panache à s'en prendre à des étudiantes de Sciences Po. Faut avoir lu des livres quand même pour engager la conversation. Par rapport à un Émile Louis qui courtisait des jeunes filles un peu en retard. Un peu en retard pour prendre le bus. Pas pour prendre le bus, pardon. En retard, on a vu la photo, elles étaient en retard tout court. Voilà, le travail est un peu prémâché avec ces demoiselles.
Décidément, on reste sur le même sujet, mais c'est l'actu
avec ses
quatre nouvelles plaintes contre Gérard Louvain et son mari.
Oui, quatre nouvelles plaintes. Oh oui, le 4 à la suite.
Oui.
Alors, pour certains, l'amour, c'est mieux à deux. Pour d'autres... L'amour, c'est mieux à dos. Il produisait des sacrées soirées. Elle organisait des sacrés goûters, visiblement. D'ailleurs, on salue au passage, bien sûr, vos parents, Mariti et Gilbert Carpentier, Stéphane. Bref, ces derniers jours, les affaires d'inceste et de viol sur mineurs se multiplient. On a même du mal à suivre. Oh, main aux fesses au CNC! Avec une agression sexuelle et tentative de viol, Dominique Boutonnat, président du CNC, est accusé par son filleul de 22 ans. Très, très vilain geste par derrière. Carton rouge avec viol sur mineur chez le couple Louvain-Moine. Un marquage à la culotte qui aurait dérapé. Oh là 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 là! Vilain geste à Grenoble! Violence sexuelle à Sciences Po Grenoble, ça n'arrête pas. Quelle belle soirée!
Bon, avec toutes ces horreurs dans l'actu, on termine avec une très belle initiative, car le 15 février, ce sera la journée internationale de lutte contre les cancers pédiatriques.
Mais bien sûr, mon cher Jean-Claude Cordonnier, c'est bien que vous le rappeliez, et je vous invite, alors là, on est sérieux deux secondes, ainsi que tous nos éditeurs à vous rendre sur les réseaux sociaux de l'association Léo, association dont je suis le parrain, du 12 au 15 février pour les soutenir lors de l'événement annuel, ça s'appelle Une nuit pour 2500 voix. 2500, c'est le nombre d'enfants diagnostiqués du cancer chaque année, donc il y aura plein de chanteurs qui vont donner de la voix. Ça se passe du 12 au 15, on l'a dit, tous les dons sont reversés pour financer la recherche innovante contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent. Et un petit mot de Reims, hein, on a des amis de Reims. À Reims, 50 étudiants de l'école Thunon vont aller visiter 600 personnes âgées isolées pour leur soutirer de l'oseille, je pense. Non, pour leur offrir des sacs cadeaux. Ça, c'est, voilà, des étudiants qui sont pourtant en galère vont vers des personnes âgées. C'est soutenu par Robert Pires, Reims. C'est sur Facebook et Insta. Regardez le lien Reims. Et je répète, rendez-vous sur Facebook, Insta, Association Léo. Et mon ami, le chanteur Grégoire, a écrit une chanson originale spéciale pour l'événement. Je l'ai entendue, elle est sublime. Merci à lui. Ce sera lundi, la chanson sera lundi sur les réseaux de l'association. Et l'association qui me tient le plus à cœur, c'est une photo pour Stéphane Carpentier et Philippe Cavrière, car nous ne sommes pas sur cette putain d'affiche. Et je tiens à ce que Régis Ravanès le sache. Alors, on n'est peut-être pas photogénique, j'en sais rien, mais voilà, le mépris dont fait preuve cette station à notre égard est scandaleux, Stéphane.
Philippe Cavrivière, c'est le jeudi, il est intenable. On va pouvoir écouter tout ça, le podcast, très très vite, évidemment, sur l'appli RTL. Mon Dieu, sortez d'ici, s'il vous plaît. 18h39, nous sommes jeudi, mais il vient nous présenter son nouvel album, Lundi Méchant, auteur, compositeur, interprète, mais aussi écrivain. C'est Gaël Faye qui est notre invité juste après ça, et on est franchement ravis. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
18h42, tout lui réussit. Double nomination aux Victoires de la Musique pour son album Lundi Méchant, artiste masculin, album de l'année. Il a vendu plus d'un million d'exemplaires de son premier roman, Petit Pays, roman adapté au cinéma, qui lui vaut également une nomination au César pour la meilleure adaptation. C'est un artiste engagé. Bonsoir à vous, Gaël Faye.
Bonsoir.
Je suis ravi de vous accueillir. Ça file pas un peu le vertige, tout ça, là?
Oui, dit comme ça, là, quand les phrases se succèdent, effectivement. Mais sinon, pris individuellement, non, ça va.
Il y a quelque chose que vous faites mal dans la vie ou pas?
La cuisine.
Ouais. C'est vrai.
Ouais. Bon, c'est... Non, il y a plein d'autres choses. Hein.
On s'arrête ensemble sur votre parcours, hein, qu'on a pu lire, qu'on a pu entendre. Vous avez dû quitter votre pays natal, le Burundi, à l'âge de 13 ans pour fuir la guerre civile, le génocide des Tutsis au Rwanda, pays de votre maman. Est-ce que l'écriture, la musique ont été votre, échappatoire pour surmonter toutes ces épreuves?
Ah oui, complètement. Je dois tout à l'écriture. D'abord à l'écriture et ensuite à la lecture. En fait, l'écriture m'a amené à la lecture. Quand je suis arrivé en France, j'ai découvert que c'était un pays avec plein de bibliothèques dans tous les quartiers et puis des librairies. Et comme j'avais dû quitter très rapidement le Burundi, j'avais perdu tous mes repères et que j'avais du mal à me faire de nouvelles amitiés, ouais, ça a été un refuge.
Qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez ado?
J'ai découvert le rap français en arrivant en France, ouais. Et ouais, j'ai écouté beaucoup Oxmo Puccino surtout.
Uh-huh. Ouais. Et ça vous permettait de vous échapper, ça? De vous aérer?
Complètement. Bah, c'est-à-dire que avec le rap français, j'ai découvert qu'on pouvait s'exprimer avec sa propre langue. Et moi, j'avais un français qui était matiné de Swahili, de Kinyarwanda, de Kirundi. J'arrivais d'un espace qu'on appelle la francophonie, qui faisait que je savais pas très bien comment manier cette nouvelle langue qu'on parlait à l'école, et dans le rap, j'ai pu m'exprimer avec mes propres mots, mes propres expressions.
Comment vous définissez aujourd'hui? Vous êtes un chanteur, vous êtes un rappeur, vous êtes un slammer, un mélange de tout ça?
J'aime bien me définir comme un auteur, uh-huh, parce que dans ce mot-là, on peut imaginer un auteur de roman, un auteur de chanson, donc ouais, ça me plaît bien, de scénario. Moi, tout ce qui a trait à l'écriture m'intéresse.
Et pourquoi pas rappeur, alors?
Non, rappeur aussi. Ouais. Si, rappeur, c'est... Mais c'est simplement que le mot rappeur, malheureusement, il est entouré d'énormément de clichés et d'idées préconçues. Et donc, dans un dîner en ville, quand vous dites que vous êtes rappeur, voilà, soit ça fait exotique, soit ça fait peur.
Pourtant, c'est la musique d'aujourd'hui, non?
Bah, complètement. Non, mais c'est vrai que les choses changent, heureusement.
Ouais.
Les choses changent.
L'image s'améliore.
Ah oui, beaucoup. Bah, c'est-à-dire que maintenant, c'est une musique populaire. C'est plus la musique des marges.
Vous êtes l'un des favoris donc pour les Victoires de la Musique, cérémonie qui aura lieu demain soir. Deux nominations pour votre nouvel album. L'album, c'est Lundi Méchant.
Chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire...
Je vous vois bouger, Gaël Faye, sur votre musique. Vous aimez vous écouter? Vous savez, il y a des acteurs qui n'aiment pas se regarder.
Est-ce que vous, votre musique, vos paroles, ça vous plaît de vous écouter?
Non, quand même pas à ce point-là, mais disons que là, comme j'ai sorti l'album récemment, que j'ai pas encore vraiment vécu les chansons, oui, je prends toujours du plaisir. En plus, vous avez un bon système son, donc ouais, ça va.
On est bien équipés. Drôle de titre pour un album, hein, et pour cette chanson, Lundi Méchant, parce que généralement, c'est un peu le dimanche qu'on déteste, non? Pourquoi Lundi Méchant, c'est quoi le...
Non, c'est une expression qui vient de Bujumbura. Il y a une boîte de nuit qui s'appelle le 5 sur 5, et ils font des soirées qui s'appellent les Lundis Méchants, et l'idée c'est de sortir directement en boîte de nuit le lundi pour éviter le cafard du dimanche, et surtout pour avoir cette mentalité de résistance, de dire bon, il faudrait qu'on travaille et qu'on soit sage en semaine et attendre le week-end pour s'amuser. Ben, on a décidé de tout de suite être irrévérencieux dès le lundi soir.
J'adore. Ça vous fait quoi ces deux nominations aux Victoires? Vous aviez déjà reçu une victoire,
oui,
en 2018.
J'avais une victoire, hein, révélation de scène, révélation scène, hein. Mais là tout de suite c'est plus impressionnant, artiste de l'année, album de l'année. Donc non, moi ça m'emplit de bonheur, et puis surtout je suis content parce que c'est typiquement le genre de prix qu'on partage aussi avec les équipes qui m'entourent. Donc là on est comme dans un marasme pour le spectacle vivant. Donc on se voit pas beaucoup avec mes équipes, pas comme d'habitude. Donc là ça nous permet de nous revoir pour des bonnes raisons.
Ces victoires de la musique, vous les voyez comme une compétition?
Non, pas en tant que tel. Bien sûr, c'est une compétition, mais moi, je me dis que déjà le fait d'y être, c'est, on a déjà gagné, quoi. On est les 1%. C'est être extrêmement privilégié que d'être déjà là le soir des victoires.
Et tous les artistes n'ont pas le même sentiment que vous, parce qu'on a Benabar par exemple, le chanteur, qui disait que ça l'écœure. Ces récompenses-là, il dit tout le gratin du show business est là, ces gens m'ont écœuré, ils se détestent tous.
Ouais, peut-être qu'il est là depuis plus longtemps que moi, donc il voit un peu plus les ficelles et les marionnettes, mais moi j'ai la chance d'avoir un regard encore un peu neuf et détaché par rapport à ça. Donc non, moi je le vois plutôt comme un bon moment à passer sur scène, surtout en ce moment, je veux dire. Là on nous offre l'occasion aux Victoires de jouer avec l'orchestre. Il y a 60-70 musiciens, c'est quand même extraordinaire, de faire une mise en scène, d'avoir des danseurs. Donc non, moi je ne peux être que content de ce moment.
Le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, respire. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, respire. Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis, triste face à face, poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs, ok. Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo. T'as le souffle court, respire.
Gaël Faye, c'est avec ce titre-là que vous produirez demain soir justement sur la scène. C'est pas facile, hein, en ce moment, de respirer avec tous ces masques.
Qui le dites-vous? Ben oui, oui, effectivement, mais ce qui est marrant, c'est que ce texte était prémonitoire, parce que je l'ai écrit avant tout ce qui se passe, et donc oui, quand j'écrivais Les masques sont mis, je pensais pas que j'allais me retrouver dans une situation d'interview radio avec un masque.
Ouais, le contact avec le public, la scène, ça vous manque franchement?
Oui, ça me manque totalement. En fait, je me suis rendu compte à quel point c'était un équilibre dans ma vie, parce que bien sûr j'avais arrêté la scène, mais de temps en temps, pendant 3 mois, 4 mois, mais là de savoir qu'on ne peut pas du tout rencontrer les gens, effectivement, il me manque quelque chose. Il y a un vide en tout cas.
Et comment vous arrivez à compenser?
Je compense par l'écriture. Je me lance à nouveau dans l'écriture de romans, dans l'écriture d'albums, de projets, voilà, parce que j'ai besoin de maîtriser mon temps. Et c'est vrai que là, le fait qu'on nous reporte en permanence concert, on a l'impression d'un horizon qui s'éloigne. Plus on avance et plus il s'éloigne, un peu comme les oasis dans le désert. Donc oui, ça crée beaucoup de mal-être.
On avait beaucoup misé sur les festivals pour l'été prochain. On a déjà appris hier l'annulation du festival Solidays. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a promis qu'il y aurait des festivals cet été. Vous y croyez, vous?
Bah oui, moi j'y crois tant que les organisateurs y croient. Ouais. Je suis là. En tout cas, avec mes musiciens, on va rentrer en résidence, on prépare les concerts comme s'ils allaient avoir lieu. Mais ensuite, ouais, on verra bien.
Vous avez le sentiment que le gouvernement, il en fait assez pour le monde de la culture en ce moment ? Franchement.
C'est vrai qu'on reste. Moi, je reste toujours avec ce malaise que j'ai eu lorsque on a parlé de non essentiel, d'art non essentiel. Je pense qu'il va falloir à un moment donné se dire que si on y est pour longtemps. Il y a peut-être d'autres manières de faire des concerts, de rencontrer du public, et je crois que tout le monde est prêt à jouer le jeu, les artistes, le public. Moi, je sais qu'en à l'automne, on m'a demandé de tourner, et à ce moment-là, j'ai dit non. Parce que j'avais pas envie de distanciation, de masque, etc. C'était encore trop tôt. Mais maintenant que je vois qu'on est rentré dans quelque chose sur du long terme, je suis prêt à jouer le jeu, et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes comme ça. Donc, même si c'est des petites salles de 30 personnes, mais il faut qu'on remonte sur scène. On peut pas rester pendant des années sans monter sur scène.
Il faut trouver des solutions.
Ouais, faut trouver des solutions. Et puis Internet, ça suffit pas, quoi. Je pense que les live streams, on en a assez, là.
On s'arrête un instant sur votre premier roman, Ces petits pays, qui est inspiré de votre histoire, tout comme d'ailleurs cette chanson-là. C'était issu du premier album, ça, on est d'accord. Ouais. Hein. Petit pays qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde. Hein.
Non, en France.
En France ?
Ouais, en France.
En France, un million d'exemplaires en France. Ouais. Et donc dans le monde, beaucoup, ça a été ultra traduit. Hein.
Ouais, plus de 40 langues.
40 langues, ouais. C'est un best-seller. C'est plus difficile d'écrire un roman ou d'écrire une chanson ?
C'est pas la même chose. Je comparais plutôt un album et un roman, parce que oui, écrire un album, pour moi, c'est un peu l'énergie que je mets dans un roman. C'est-à-dire que même dans un album, j'essaye de raconter quelque chose en filigrane entre les chansons. Donc, disons que ce qui est plus difficile dans le roman, c'est que c'est très solitaire. Alors que dans un album, je suis entouré d'autres énergies, donc parfois je peux compter aussi sur l'apport d'invités ou de musiciens. Oui, sur un roman, il y a quelque chose de plus personnel. Donc, mais les deux pour moi participent de la même technique finalement.
Votre livre, on préparait tout cela avec l'équipe cet après-midi, et on me soufflait qu'il est même aujourd'hui étudié dans les écoles.
Ouais, c'est incroyable.
C'est incroyable, non ?
Ouais, c'est incroyable. Non, vraiment, ça dépasse tout ce que j'aurais pu espérer.
Il est adapté au cinéma, et vous êtes nommé dans la catégorie meilleure adaptation au César avec tout ça. Même de loin. Même le cinéma, quoi, maintenant. Est-ce que vous en avez un nouveau livre en préparation ? C'est dans la tête, ça, ou pas ?
Oui, mais plus que dans la tête, c'est dans des, c'est dans l'ordinateur, sur des cahiers. Non, ça avance. Je suis sur des histoires. C'est un peu.
C'est un peu tôt pour en parler.
Il y a des hauts et des bas. Là, vous êtes en train de parler à quelqu'un qui souffre actuellement, donc je vais pas m'étaler.
Alors, j'aurais surtout pas vous faire souffrir ce soir. On se quitte avec Respire. Greg, on peut la recaler ou pas ? Parce que c'est la chanson qui sera demain aux Victoires de la Musique. Merci Gaël Faye, c'était un plaisir de vous accompagner ce soir.
Merci beaucoup.
Et de vous accueillir dans RTL Soir. 18h55. Et on enchaîne avec la météo. Peggy sera ravi d'avoir Respire dans les oreilles.
Parfait, ça me va très très bien.
Demain, pardon, mais on a un vrai temps hivernal encore.